Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Rien ne va plus. Il est 19h et Marc Menon se moque de moi. C'est du n'importe quoi.
Bah, pas vraiment. Mais bon, je raille. en pleine grève SNCF, je raille.
Nous avons un intrus sur le plateau. Regardez, Geoffroy Lejeune est là ce soir. Il remplace Dimitri qui est au ski. Non, je ne sais pas où il est Dimitri, mais il n'est pas là, il est en vacances.
Je ne remplace pas, je succède.
Oh, je succède. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir, mon cher Geoffroy.
Merci.
Simon Guillain, piaf d'impatience, parce qu'avec lui, c'est l'info. Comment ça va, Simon?
Allez, on y va. Ça va très bien. Mathieu Bocoté n'est pas très sympa avec moi, mais ça va.
On va faire une liste de doléances.
Allez, on y va. Bonsoir à tous. On commence avec ce nouveau féminicide à Montpellier. Un homme a tué par balle son ex-épouse, dont il était divorcé depuis 2016. Le drame a eu lieu sur le parvis du tribunal de la ville en début d'après-midi. L'homme âgé de 72 ans s'est ensuite suicidé. Le couple avait rendez-vous devant le juge des affaires familiales. Un homme d'une vingtaine d'années tué par balle à Avignon. Le drame s'est produit hier soir vers 23h30 près d'un point de deal dans le sud de la ville. Une voiture pouvant correspondre à celle du ou des tireurs a été retrouvée incendiée dans une commune voisine. Et puis Paris demande une enquête indépendante et approfondie sur la mort d'Alexei Navalny. La France tient les autorités russes pour pleinement responsables de sa mort, précise un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur de Russie en France a été convoqué hier par le Quai d'Orsay, chère Christine.
Merci mon cher Simon. Et au sommaire ce soir, pourquoi devrait-on exclure Marine Le Pen de la panthéonisation des Manouchians? Pourquoi certains élus de la République devraient-ils être bannis d'un hommage national? Pourquoi cette volonté de radicaliser la France, radicaliser sa population, radicaliser ses élus, radicaliser ses hommages nationaux et radicaliser jusqu'au dernier recoin qui nous unissait encore? L'hommage aux résistants communistes tombés sous les balles des soldats nazis qui entrera pour l'éternité au Panthéon aura lieu demain. L'édito de Mathieu Bocoté. L'imam inexpulsable, l'imam qui a critiqué la France, qui l'accueille, ne pourra pas être expulsé visiblement, malgré la volonté et l'annonce de Gérald Darmanin. Majoubi a tenté des excuses aujourd'hui et son avocat a expliqué qu'il n'a pas une maîtrise parfaite de la langue française et en quelque sorte les drapeaux tricolores qu'il jugeait sataniques sont une erreur de compréhension. En quoi la machine a dédouané, a déculpabilisé, s'est-elle mise en place? La machine a justifié l'injustifiable. L'analyse de Geoffroy Lejeune. Il y a quelques jours, une femme de 80 ans a été violée par un homme sous OQTF à son domicile dans les Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, un homme a tiré sur une femme avant de retourner l'arme contre lui devant le tribunal à Montpellier. Ce midi également à Orléans, une lycéenne a frappé sa professeure avec son téléphone portable. Pourquoi? Parce que la professeure voulait le lui confisquer. Pourquoi tant de violence? Le regard de Marc Menon. Alors que demain, je le disais il y a quelques instants, Missak Manouchian va entrer au Panthéon, les résistants étrangers auront enfin leur place officielle dans notre récit national. Il est vrai qu'on se demande comment nous avons pu mettre autant de temps pour ouvrir ainsi nos portes de la sacralisation aux étrangers. Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis à la chasse aux sorcières, c'est une nouvelle valeur française. La délation, c'est une nouvelle valeur française. Faire taire ses opposants, c'est une nouvelle valeur française. Ces valeurs qui caractérisent Sleeping Giants, c'est d'ailleurs un député de la majorité qui a proposé ce collectif pour le prix Nobel de la paix. En quoi le simple fait de les proposer en dit déjà beaucoup sur l'imaginaire d'une partie de la majorité? L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires plus un. Je prends le jeune ce soir. C'est parti. Comment allez-vous ce soir?
Très bien, toujours bien.
Moi, je suis stressé, moi.
Oh, vous pas l'air. En tout cas, costard, cravate, Geoffroy Lejeune arrive. Je vous dis pas, il a des baskets. Hein. Il avait un costard, cravate, mais des baskets. On est ravis de vous recevoir, en tout cas. J'ai une petite vidéo à vous montrer, puisque RSF a tenu une conférence de presse aujourd'hui, cet après-midi, avec une vingtaine d'avocats. Voilà, ils sont vraiment déterminés à faire appliquer la loi contre CNews, notamment. Je vais vous faire écouter ce petit sonore dans un instant. On a beaucoup de sujets à voir ce soir. D'abord, Mathieu Bocoté, on va commencer par la présence annoncée de Marine Le Pen demain à l'hommage des Manouchians, qui suscite bien des graissements de dents. On lui reproche de s'inviter là où on ne veut pas d'elle. On lui reproche de manquer de décence. Et pourtant, elle tient à être à cet événement. Qu'est-ce qui se joue en réalité derrière cette polémique ?
Pour peu qu'on prenne au sérieux l'idée d'Orwell, qui nous disait « qui contrôle le présent contrôle le passé », qui contrôle le passé, contrôle le futur, eh bien, celui qui maîtrise les termes, on pourrait dire la mémoire collective, celui qui fixe quelle est la bonne mémoire et la part de la mémoire que l'on doit rejeter, celui-là est au pouvoir symboliquement sur les autres. Et ce que l'on cherche à faire ici, je le dis d'un mot, c'est de chasser du périmètre de la légitimité nationale et démocratique Marine Le Pen en faisant, c'est ce que disait l'Humanité avant-hier, je crois, et que laissait dire Emmanuel Macron, que Marine Le Pen serait finalement dans le camp des vaincus de la Deuxième Guerre mondiale qui chercheraient à revenir aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe à travers cela, donc à travers la panthéonisation de Manouchian? C'est la question de la mémoire de la résistance. C'est-à-dire comment comprendre la résistance dans l'histoire française? Parce que ce n'est pas aussi évident. La résistance dans l'esprit du commun des mortels, c'est un envahisseur arrive, on le chasse. Ceux qui participent au fait de chasser l'envahisseur et l'occupant, ce sont les résistants. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une définition de base. Probablement celle qui a inspiré l'immense majorité des résistants. Mais la représentation historique et symbolique de la résistance a évolué considérablement jusqu'au temps présent. Et il faut retracer cette évolution pour voir quel est le symbole, selon Manouchian, le symbole. Alors, premier élément, la résistance fut d'abord et avant tout, ne l'oublions pas, une résistance nationale. Et j'ose même le mot nationaliste, c'est-à-dire l'étranger au sens de l'ennemi, l'occupant était en France, il fallait bouter l'allemand hors de France, comme en d'autres temps il fallait bouter l'anglais hors de France. Il fallait restaurer l'indépendance de la patrie. Et autour de ce programme élémentaire, autour de ce programme qui allait de soi, vous avez pu retrouver des gens qui venaient d'Action française, des gens qui venaient du communisme, des centristes, des libéraux, des conservateurs, en fait des Français de tous horizons, de toute origine, qui se retrouvaient dans cette idée élémentaire, l'indépendance de la patrie. Mais, et de ce point de vue, tous ceux qui ont participé à la libération de la patrie participent donc, on pourrait dire, au panthéon, au-delà du panthéon qui existe réellement, au panthéon des héros de la patrie. Donc, et ils y sont, non pas pour ce qu'ils avaient en propre, parce qu'ils étaient communistes, parce qu'ils étaient libéraux, parce qu'ils étaient monarchistes, mais parce qu'ils ont participé à la libération de la patrie. Donc Manouchian, il n'est pas célébré, il ne sera pas célébré demain parce qu'il était étranger, il ne sera pas célébré parce qu'il était communiste, il sera célébré parce qu'il a participé à la libération de la France. Ce n'est pas son statut de communiste qui est célébré, ce n'est pas son statut d'étranger qui est célébré, c'est son statut de patriote par le sang versé. Ça, c'est la première chose.
Donc, c'est vraiment le patriotisme qui est au cœur de tout cela.
Bien, évidemment, c'est quand même... Sinon, pourquoi? Dire s'il faut panthéoniser tous les communistes du monde, il y en aurait quand même beaucoup. Hein. Et si je peux me permettre, leur bilan est quand même globalement négatif, contrairement à ce qu'a cru en d'autres temps Georges Marchais. Le problème, évidemment, dans cette résistance nationale, c'est qu'on est dans une époque qui n'aime plus la nation. Comment célébrer la libération d'une nation alors qu'on considère que la nation, c'est un peu, finalement, elle appartient au passé de l'humanité? Donc, on cherche dans le panthéon symbolique des résistants possibles celui qui incarnerait une résistance non nationale et plus encore non nationaliste. Et dès lors, Manouchian apparaît comme une figure tout à fait inespérée et désirée, parce que voilà un homme qu'on dit, oui, il s'est battu pour la France, mais non pas pour la France charnelle, mais non pas pour la France organique, comme aurait dit Emmanuel Macron, non pas pour la France du pays réel et profond, non pas pour la France d'une certaine idée de la France qui vient du fond des âges, mais pour la France des droits de l'homme. Donc Manouchian apparaît comme le porteur de la seule France légitime aujourd'hui. Non plus la France de l'enracinement, non plus la France de la continuité historique, non plus la France de l'identité profonde, mais la France des droits de l'homme. Et c'est pour ça qu'on nous dit Marine Le Pen n'est pas la bienvenue pour le commémorer, parce qu'elle ne se reconnaît pas dans la vision de la France qui serait celle de Manouchian. Donc, autrement dit, c'est une volonté, ce qu'on comprend, évidemment que Manouchian a sa place dans le panthéon en ces matières, évidemment qu'il a sa place dans l'histoire large de la résistance. Mais ce qu'on nous dit, finalement, aujourd'hui, c'est que la seule résistance légitime, c'est la sienne. Toutes les résistances qui ne s'inscrivaient pas sous le signe exclusivement des droits de l'homme et du communisme et de l'internationalisme seraient une résistance inachevée et incomplète. Donc là, on vient de trouver le héros nécessaire, celui qui transcendra tous les autres. Alors, le grand problème ici, évidemment, c'est que ça efface la complexité de l'histoire de la résistance. La résistance n'a pas rassemblé, je le disais, que des communistes internationalistes attachés au statut de la France, pays des droits de l'homme. J'irai même plus loin. Quand on célèbre la résistance, la vraie, celle qui veut libérer la patrie, ça n'implique même pas de célébrer le CNR, le Conseil national de la résistance, qui s'accompagnait d'un programme de réformes sociales et économiques. Je crois qu'il était possible de vouloir libérer la France tout en étant libéral ou conservateur ou socialiste. Et qu'il n'était pas nécessaire de vouloir la libérer dans une perspective socialo-communiste pour vouloir la libérer vraiment. Mais ça, c'est ce qu'on cherchait à nous imposer comme récit, les communistes depuis la guerre. Ne l'oublions pas. J'ajoute une chose. Les résistants, il y en avait, je l'ai dit, de plusieurs tendances idéologiques, mais c'est une période complexe, très complexe, la Deuxième Guerre mondiale. Tout n'était pas tranché avec une grande clarté comme on le voit aujourd'hui. Donc il y avait cette catégorie très étrange à laquelle a appartenu François Mitterrand, les vichisto-résistants. Des gens qui croyaient à ce moment-là, parce qu'ils ne comprenaient pas, ils voyaient, on n'était pas conscients de l'horreur absolue du nazisme, qui disaient, on va participer de l'intérieur aux institutions de la France, de Pétain dans ce cas-là, en se disant, parce que ça avait une autre manière de résister de l'intérieur. Évidemment, ce n'est pas notre choix, évidemment, nos préférences vont au général de Gaulle, tout ça, mais quand on cherche à comprendre en temps réel ce qui s'est passé, ces gens-là existaient aussi. Donc, ça nous rappelle une chose, la mémoire est un champ de bataille. La mémoire, donc, savoir qui devons-nous célébrer comme héros, qui devons-nous célébrer comme figure admirable, qui devons-nous admirer. On nous dit aujourd'hui, le résistant ultime, c'est Manouchian, parce que c'était, je l'ai dit, un résistant non-nationaliste. Mais je me permets cette phrase, j'ai référé au général de Gaulle, qui quant à moi est la grande figure en ces matières, qui lui n'était pas exactement un cosmopolite internationaliste, communiste, hostile au nationalisme. Je tiens simplement à le rappeler, de Gaulle écrivant au fils de Maurice Barrès pendant la guerre de mémoire, écrit Maurice Barrès, figure complexe, et dit « Votre père, je n'en doute pas, aurait été des nôtres ». Votre père, je n'en doute pas, aurait été des nôtres. La question que je me pose aujourd'hui, c'est lorsqu'on célèbre le combat de la France résistante, est-ce qu'on est capable de comprendre que cette résistance porte à la fois la mémoire de Manouchian, mais aussi des héritiers du fils, dans ce cas-là, de Maurice Barrès, qui était Philippe Barrès? Est-ce qu'on est capable de se dire que tous ces gens-là, à leur manière, à partir de philosophies contrastées, appartenaient au même pays? Et de ce point de vue, pour peu que vous aimiez l'indépendance de votre pays, vous êtes en droit de célébrer toutes ces figures. Vous êtes Marine Le Pen, vous avez le droit de célébrer Manouchian. Vous êtes un héritier du communisme, vous avez le droit de célébrer le général de Gaulle.
Quelle formidable démonstration. On n'a pas terminé, mais je marque une petite pause pour qu'on puisse voir en direct, pendant que vous vous exprimez, les images de la cérémonie de la veillée au Mont-Valérien qui a commencé justement à la veille de la panthéonisation de Missak Manouchian. Poursuivez cette démonstration formidable. Alors récemment, la question de la présence de LFI à la commémoration des victimes françaises du 7 octobre n'était-elle pas de la même nature ?
Alors, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que là, on était au temps présent. Vous savez, normalement, l'histoire, c'est censé plus les années passent, plus on est capable de se réconcilier, prenant conscience de la complexité des choses humaines. Là, on était à quelques semaines et quelques mois. Donc, ce n'était pas l'arrière-petit-fils du cousin éloigné qui disait « S'il vous plaît, ne vous présentez pas à la commémoration ». C'était des familles des victimes du 7 octobre qui disaient à certains « Vous ne vous présentez pas, vous ne faites pas. » Vous avez eu au moment du pogrom du 7 octobre un comportement indigne. De ce point de vue, nous préférons que vous ne vous présentiez pas. Donc, il faut distinguer entre la commémoration historique, sachant qu'il n'y a qu'une France, c'est ce que j'en sais. S'il n'y a qu'une France, il s'agit d'ailleurs d'accepter, quand on accepte la mémoire de la France, on accepte l'ensemble de la mémoire de la France. On ne sélectionne pas dans l'histoire de France, toi je t'aime, toi je ne t'aime pas, ou on peut avoir des préférences. Mais globalement, la commémoration, lorsque l'État la prend en charge, tous les patriotes, tous les citoyens ont droit d'y participer. Donc ça, c'est l'histoire de France. De l'autre côté, c'est le temps présent. Les temps présents dans l'immédiateté, où les passions sont encore vives, et dès lors, je ne mettrai pas sur le même pied ces deux types de commémorations. Par ailleurs, je l'avais dit ici, je le redis, moi je ne suis pas un fan du cordon sanitaire quel qu'il soit. Donc quand des gens disent « vous venez pas à ma commémoration », puis trois semaines après c'est un autre qui dit « vous venez pas à la mienne », puis trois semaines plus tard c'est le troisième groupe qui dit « je vous veux pas », je pense que c'est la meilleure manière de segmenter un peuple, de fragmenter un peuple. On oublie une chose fondamentale, c'est dès lors qu'on offre à admirer, dès lors qu'on offre à commémorer des hommes, des vies, des engagements, eh bien, si on dit que c'est seulement bon pour la petite partie de la nation qui pense comme moi en toutes circonstances, c'est la meilleure manière de provoquer un éclatement programmé. Donc, si on a cela à l'esprit, on distingue. Donc, moi, vous voyez le point d'aboutissement en la matière. Je pense que lorsque les élus de la nation sont invités, on ne trie pas entre LFI, le RN, Mme Rousseau, et faites la liste de tous les gens qui peuvent être à l'Assemblée nationale. Vous êtes à l'Assemblée nationale parce que les Français vous ont choisi. Vous êtes à votre place lorsque les institutions sont rassemblées pour commémorer. Disant cela, j'ai l'impression de tenir un propos qui va en choquer quelques-uns, mais je m'en désole parce que j'ai l'impression d'être du registre de 2 plus 2 égale 4.
De bon sens, quoi.
Oui, je crois.
Alors, on y revient toujours, Mathieu Bocoté. À travers tout cela, nous parlons de la question toujours du cordon sanitaire.
Toujours, on n'en sort pas. Quel est le sens du virage des derniers jours d'Emmanuel Macron? C'est à l'horizon des Européennes, à l'horizon de 2027. Il s'agit de réactiver, à travers Manouchian qui sert de détour, la mémoire de l'antifascisme pour expliquer que la lutte de l'antifascisme se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et notez, hein, j'y reviens pour un instant, c'est assez intéressant, quand on pense à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, on oublie que c'était à la fois un combat, on pourrait dire, contre la barbarie nazie, mais c'était aussi le combat, je le disais, contre un occupant. Or, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Eh bien, le RN, appelons ça comme vous voulez, la droite nationale, seraient en fait les héritiers de l'occupant. Ce seraient les héritiers de l'occupant. Est-ce qu'on se rend compte de la violence d'une telle affirmation quand on nous parle ensuite d'unité de la nation et d'unité républicaine? Donc oui, il s'agit de bannir, d'utiliser la mémoire de Manouchian pour bannir de la nation une candidate dans les circonstances qui a rassemblé plusieurs millions d'électeurs à la présidentielle. Ce n'est pas un détail. Mais qu'est-ce qu'on souhaite à travers tout ça? Il s'agit en fait de pratiquer une exclusion de plus en plus brutale de ceux qui sont en désaccord avec l'idéologie dominante. Il y a une petite scène qui s'est passée, je crois que c'était sur RTL ces derniers jours, je pense que c'est ce matin ou avant-hier, où on raconte comment fonctionne le cordon sanitaire en Belgique francophone. Puis on dit, vous savez, c'est le paradis. Parce que là-bas, on interdit l'extrême droite sur les ondes. On ne l'invite jamais, 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 jamais. Et puis là, on voit, les gens sont filmés, puis il y a quelqu'un dans le studio qui est là, il ne peut pas se retenir, puis il est là, bravo, bravo, c'est formidable, on interdit l'extrême droite des ondes, sachant ce qu'ils appellent l'extrême droite. Donc qu'est-ce qu'on voit à travers tout ça? On veut chasser de la mémoire, on veut chasser de l'histoire, on veut chasser des symboles, on veut chasser de l'arc républicain. Et en vérité, c'est la logique de la purge. La logique de la purge contre des gens qui, aujourd'hui, se réclament ouvertement. Je parle ici de toutes les forces politiques françaises, quelles qu'elles soient. De la mémoire de la résistance, de la mémoire de l'indépendance nationale, de la mémoire du gaullisme, de la mémoire de ceux qui ont restauré l'indépendance de la France lorsque la France était occupée. En la matière, je crois que cette mémoire appartient à tous, à Marine Le Pen, comme à M. Mélenchon, à Mme Rousseau, comme à M. Macron.
On fait un tour de table peut-être sur la question, Marc Menon. J'ai l'impression que c'est un cri du cœur d'un non-français, d'ailleurs. Hein.
Oui, un cri du cœur pour la France. Comme toujours, il cisèle la démonstration, le bougre. Mais je sortirai ma petite carte supplémentaire. C'est celle du colonel Larocque. Absolument. Les Croix de Feu. C'est-à-dire, ils avaient participé à la manifestation du mois de février du début des années 30 pour faire tomber le pouvoir. Au dernier moment, il avait dit non, soyons légalistes. Et l'un des premiers à entrer en résistance, c'est le colonel Larocque. Donc ça va tout à fait dans l'illustration des propos de Mathieu, et par conséquent, il est impossible, et je dirais intellectuellement insupportable, de voir comment on peut dévier la réalité historique.
On a l'impression que ça va de soi, Geoffroy Lejeune, et en même temps, il faut le dire, l'expliquer, rappeler à quel point un hommage national est un hommage national, rappeler à quel point on a besoin de cohésion. On a besoin justement de rassembler la France, non?
Surtout dans un moment où il n'y a pas d'héritier ou de victime directe. Donc la question qui s'est posée pour le 7 octobre, comme l'a dit Mathieu, ne se pose plus. Moi, si vous voulez, j'ai l'impression, vous vous rappelez au moment de la marche contre l'antisémitisme, certains étaient très très désolés de voir Marine Le Pen et Jordan Bardella aller dans la marche. Pourquoi? Parce qu'en fait, un Front National, un Rassemblement National qui ne serait pas antisémite, serait pas le Rassemblement National dont ils ont besoin. Comme aujourd'hui d'ailleurs, un Rassemblement National qui ne serait pas vichiste ou pétainiste ne serait pas le Rassemblement National dont ils ont besoin. En fait, ils ont besoin d'un adversaire, et le jour où cet adversaire n'est plus celui qu'ils espèrent, ils perdent leurs repères, donc ils perdent la bataille.
Non, mais c'est vrai qu'au-delà, au-delà de la complexité, d'abord, de la période qui est jugée... plus vous êtes jeune, des décennies après, plus vous êtes intransigeant sur les choix de tel ou tel en plein cœur de la guerre. Déjà, ça m'a toujours objectivement insupporté, surtout que c'est des périodes où les gens qui ont fait des choix qui sont moralement les bons, avec le recul que nous avons, qui sont évidemment moralement les bons, sont les premiers à la sortie de la guerre à avoir un regard extrêmement, ben, parfois vraiment extrêmement compréhensif des différences, des différentes personnes là où elles étaient. Donc déjà, j'invite tout le monde à relire précisément ces écrits pour se détendre un tout petit peu et imaginer aussi, parce que prendre des résistants pour modèle, ça a un intérêt majeur. C'est de comprendre chez ces personnes ce qui a animé en eux la grandeur de pouvoir résister. C'est la seule leçon qui peut nous occuper aujourd'hui dans nos vies. Absolument. C'est la seule raison, c'est de voir les vertus que ces gens ont,
résistance.
Selon leur, d'ailleurs avec des caractères, des options politiques extrêmement différentes, la vertu qui en eux, qu'ils ont alimenté jusqu'à aller en mourir, jusqu'à être prêts à en mourir. C'est la seule leçon que nous devons tous avoir. Et donc là, sur ce terrain-là, des décennies après, je me dis, mais imaginez précisément ces résistants. Imaginez Manouchian au moment de se faire fusiller, s'il imagine des décennies après le pays entier rassemblé, quels que soient précisément les choix des uns et des autres, le pays entier rassemblé pour dire que c'est lui le modèle et pas un autre. Est-ce que c'est pas ce dont il aurait rêvé finalement ? Donc je comprends même pas si ce n'est évidemment de la manipulation pour la politique d'aujourd'hui et non pas une volonté de lui rendre hommage à lui.
Et même dans son dernier mot, il pardonne aux Allemands, c'est-à-dire que sa dernière lettre est extrêmement touchante. Il rend hommage à sa femme, il parle d'amour, il dit « Vie en liberté, ne m'oublie pas ». Et il dit en quelque sorte « Soyons tous frères ». Voilà.
Soyons tous frères, merveilleux. Je retiens que la mémoire est un champ de bataille.
Ah oui.
Merci beaucoup, vraiment, vraiment brillant. C'est très touchant en tout cas. Mon cher Geoffroy, l'imam Majoubi a présenté ses excuses. Il dit qu'il aime la France. Et pourtant, vous nous dites que ce n'est pas si clair dans cette justification. Parce qu'il a essayé, lui, son avocat, sur les médias, de revenir un petit peu sur ces propos que tout le monde a vus.
Bien sûr. Alors, pour tout vous dire, je pense que tout le monde ment dans cette affaire. Ah. J'ai lu comme Marc, parce que j'ai écouté hier votre émission, j'ai lu Objectif Gare, le fameux journal local, donc, dans lequel on a eu les premières explications de l'imam Majoubi. Marc était le premier à aller voir, d'ailleurs. Je vous cite rapidement les éléments de défense. C'était donc un lapsus. Il parlait pas de drapeau tricolore, mais multicolore. Il dit que, donc, est-ce que vous pensez que je me serais filmé en tenant un discours pareil? Est-ce que vous pensez que je vais insulter la France qui m'a accueilli? Il raconte qu'il a organisé des marches après les attentats de 2015. Ça, je vais y revenir. Vous allez voir, c'était pour d'autres raisons. Qu'il défend la liberté d'expression, qu'il défend la laïcité, qu'il paye des impôts, qu'il en est fier, qu'il est un chef d'entreprise. Enfin, c'est le citoyen parfait, ce monsieur. Il dit qu'il n'a jamais fait de lapsus, même Emmanuel Macron en fait. Alors, permettez-moi de douter un petit peu et de penser peut-être que ces excuses sont une farce, même si, honnêtement, il y a une stratégie de défense, vous l'avez dit, qui est très rodée, qui est montée en puissance pendant toute la journée, mais ça aura une incidence, je vous expliquerai à la fin. Moi, déjà, des illettrés, puisque c'est la défense de son avocat qui dit qu'il n'a pas une maîtrise parfaite de la langue française, des illettrés qui connaissent le mot satanique... Des illettrés qui connaissent le mot satanique et qui connaissent le mot tricolore, j'en veux beaucoup plus que ça. Il est en France depuis 40 ans, on peut imaginer quand même que c'est un peu une blague. Mais surtout, en fait, on n'a pas eu le portrait complet de cet imam Majoubi. Il y a quelques mois, en début de décembre, un jeune journaliste du Journal du Dimanche s'est intéressé à lui et a écrit un article pour raconter qui il était. Il était dans le viseur des services de renseignement, figurez-vous. Je vous raconte rapidement l'histoire. Le 8 novembre dernier, le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport, mandaté donc par la préfecture du Gard, rend une visite à la mosquée Ataba de Bagnols-sur-Cèze pour cibler donc une école coranique. Mmh. Il y a une fermeture administrative. Pour des raisons de forme, c'est très important de le préciser, la sécurité incendie n'est pas aux normes. Il y a un risque d'atteinte à la santé morale des élèves parce que des cours sont dispensés. En gros, c'est une école coranique, c'est écrit d'ailleurs sur la sonnette devant le bâtiment, mais elle n'est pas déclarée, donc les autorités n'ont pas de droit de regard sur ce qui s'y passe, donc la mosquée est fermée.
L'école, pardon.
Oui. L'imam Majoubi est le numéro 2 d'une association qui s'appelle l'Association des musulmans du Gard rhodanien, qui est une assez grosse structure localement, qui comprend une autre mosquée, qui est elle aussi à Bagnols-sur-Cèze, dans la même ville, dont l'imam, le numéro 1 de l'association, donc, a été perquisitionné par la police en 2016, et il figure sur une note du service central du renseignement territorial, donc ça c'est les renseignements, qui dit que cette mosquée est le pôle majeur de radicalisation dans le département du Gard. Il est décrit, là je reviens sur l'imam Majoubi, par les renseignements comme une tête de proue de la mouvance Tabligh. C'est un courant assez rigoriste de l'islam. Alors, je vous ai dit qu'il organisait des marches après les attentats en 2015. C'est vrai. Les renseignements le décrivent dans cette même note comme quelqu'un qui est pro-gain et qu'il a proposé à la préfecture du Gard de créer des cellules de déradicalisation après les attentats dans l'unique but, je cite les services de renseignement, d'obtenir de subventions publiques.
Alors, attends. Très intéressant de s'arrêter sur ces histoires. On marque une pause et on reviendra détail par détail pour bien comprendre, parce qu'on ne va pas nous la faire à nous quand même. Hein. Allez, on marque une pause, à tout de suite. Donc vous étiez en train de nous expliquer, mon cher Geoffroy, nous raconter un peu le bilan du portrait de l'imam Majoubi et nous raconter à quel point il n'était pas si clair que ça. Madame, on en était où?
Ce que je trouve le plus drôle, c'est ce que je viens de vous dire juste avant la pause, mais oui. C'est j'ai organisé des manifs après les attentats de 2015 et les renseignements écrivent dans leurs notes qu'en fait il a demandé à la préfecture d'organiser des cellules de déradicalisation pour obtenir, c'est eux qui l'écrivent, obtenir des subventions publiques. Ça c'est amusant. En fait, il se décrit toute la journée, il s'est décrit comme ça d'ailleurs, comme un analphabète, en tout cas son avocat dit ça, laïque, amoureux de la France, pro Charlie. Dans les faits, c'est un rusé, il est malin évidemment, soupçonné donc d'être adepte de la Takia et surveillé pour sa mainmise sur une usine à radicalisation qui est la fameuse mosquée de Bagnoles sur 16. Alors, il conteste tout ça, et il va continuer de le contester, je vous expliquerai pourquoi à la fin, mais les éléments des services de renseignement étaient là depuis longtemps.
Oui, c'est ça. Alors, il y a aussi le maire de la ville de Bagnoles sur 16, Jean-Yves Chapelet, qui se dit très surpris, je cite, estomaqué, aussi en colère. Faut-il le croire?
Oui, alors là, je pense que l'expression « larme de crocodile » a été inventée pour ce monsieur.
Pour lui.
Bien sûr. Donc, c'est un maire macroniste, mais avant, il était socialiste. Il faut savoir que dans la région, moi j'ai grandi là-bas, je connais très bien le coin, dans la région, il y a beaucoup d'élus qui sont obligés de composer avec une communauté musulmane importante et évidemment des mosquées qui sont borderline, ils sont obligés de faire avec. En tout cas, certains composent allègrement. Les policiers du renseignement territorial, toujours eux, hein, dont la note dont je vous parlais tout à l'heure est assez quand même renseignée, décrivent donc l'imam Majoubi comme un homme ambitieux, bien implanté et qui a su, je cite, nouer de très bonnes relations avec l'équipe municipale en place. Donc là, vous voyez, il tombe de l'armoire, il découvre aujourd'hui une situation. En fait, dans les faits, il le connaît très très bien.
Oui, il se dit estomaqué alors que c'est son,
absolument,
son proche.
Et l'imam Majoubi, d'ailleurs, disait dans le papier du JDD dont je vous parlais au mois de décembre qu'il avait d'excellentes relations avec la mairie, donc il se cachait à peine. Juste pour raconter un peu les liens entre l'élu, donc l'ancien socialiste, maintenant macroniste, et cet imam qui aujourd'hui défraie la chronique, entre 2016 et 2020, il fait des travaux pour doubler la surface de sa mosquée. Il l'a fait même déborder de ce qu'on appelle la parcelle cadastrale, c'est-à-dire il va un peu au-delà de ce qu'il a le droit de faire. Pas de sanctions, pas de problème, etc. En 2021, il a un accord particulièrement avantageux avec la mairie. La ville, donc, de Bagnoles-sur-Cèze octroie à l'association des musulmans du Gard rhodanien, la grosse association dont je vous parlais tout à l'heure, un bail amphithéotique d'une durée de 18 à 99 ans sur une parcelle municipale de plusieurs centaines de mètres carrés à côté de la mosquée et il paye 1000 euros par an. C'est pas très cher, même si l'immobilier est pas comme à Paris, ils s'en tirent très très bien. Et le maire, en fait, ne découvre pas du tout monsieur Majoubi. En juin dernier, la mairie a interdit les fidèles de sa mosquée de parking public, vous savez, pour les prières de l'Aïd el-Kébir. Il était pas content, il a organisé des prières de rue devant la mosquée, donc pour protester, il a jamais été sanctionné pour ça.
Quelle enquête! Gérald Darmanin.
Alors, c'est pas moi, je précise. Hein.
Non, je sais.
C'est un
non,
jeune mais... journaliste qui s'appelle Geoffroy Antoine qui avait bien bossé en effet à l'époque. Il l'avait eu au téléphone d'ailleurs et c'est l'imam avait confirmé certains points.
Ah oui. Alors Gérald Darmanin a annoncé son intention d'expulser cet imam. On en parlait d'ailleurs dès hier soir avec Marc Menon. Et on disait dès hier soir que c'était pas possible.
Bah, en fait, si vous écoutez le ministère de l'Intérieur, c'est parfaitement possible. Si vous regardez dans le détail, c'est compliqué. Je vais essayer de défricher un peu le terrain de ce qui nous attend sur ce sujet. Déjà, bon, il faut souligner quand même qu'il est connu depuis longtemps. C'est grâce à la vidéo qu'on en parle depuis hier. Et surtout grâce au fait que CNews en ait parlé et fait monter le sujet. Parce que sinon, ce que je viens de vous raconter, tout ça, le ministère de l'Intérieur le sait déjà en réalité depuis assez longtemps. Et il faut que ça devienne un sujet d'intérêt, disons, national, pour que public, en tout cas, pour que la question de son expulsion se pose. Alors, qu'est-ce qu'ils disent au ministère de l'Intérieur? Je les ai contactés du coup sur le sujet. Ils se disent évidemment confiants sur leur capacité à expulser cet imam. Ils peuvent pas dire l'inverse en réalité. À l'heure où on parle, le procureur de Nîmes a ouvert une enquête pour des faits d'apologie du terrorisme et il l'a confié à la PJ de Montpellier. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé donc l'expulsion de l'imam Majoubi. Il est tunisien, mais il a un titre de séjour régulier. Il est installé en France depuis 1989. La procédure, vous connaissez par cœur, Charlotte vous en parle quasiment tous les jours, elle est très encadrée. Il y a des multiples recours, évidemment, et c'est exactement là-dedans qu'on est en train de rentrer en ce moment. Ça va donc être instruit par les services du ministère de l'Intérieur. Donc, il faut imaginer concrètement que des gens vont travailler, peut-être pas à plein temps, mais en tout cas, beaucoup de monde va travailler sur ce dossier, puisque maintenant qu'il est médiatique, qu'il faut aller vite pour obtenir cette expulsion. Je vous lis dans le détail la réponse du ministère de l'Intérieur. Ah. Il est possible, donc je reviens sur le terme possible, je cite, oui. Il est possible d'expulser un étranger régulier en France dès lors qu'il représente une menace grave pour l'ordre public, ou que sa présence représente une atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou que son comportement constitue une provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence. Depuis la loi immigration, donc la fameuse loi immigration récente, cette expulsion est également possible en cas de condamnation à un délit puni de 3 ans d'emprisonnement, ce qui permet de lever des protections antérieures du fait d'avoir des enfants ou d'être marié. Pourquoi je dis ça ? Parce que tout ce que je viens de vous dire est susceptible de contestation devant un tribunal. Et il y aura examen de tous ces motifs. Et là, pour le coup, il y a match. Je dis depuis tout à l'heure qu'il est intelligent et que sa défense est assez structurée et qu'elle est capable de mettre le doute dans la tête de beaucoup de gens qui l'écoutent, etc. Le tribunal qui va devoir se prononcer sur ce cas va avoir exactement les mêmes doutes. Et croyez-moi, il faut lui faire confiance à lui et à son avocat pour insister exactement sur tous ces doutes. Le ministère de l'Intérieur nous dit que c'est possible de l'expulser. Est-ce que c'est faisable ? C'est une autre question. Souvenez-vous, on a déjà connu ça. On a déjà connu ça avec l'imam Iqiyoussen. Vous en rappelez, on se rappelle de cette séquence. Il était possible de l'expulser, évidemment. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur s'était engagé dans cette procédure. La décision d'expulsion avait été cassée par le tribunal administratif de Paris au prétexte du droit à mener une vie privée et familiale normale. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien, mais ça avait été l'objet d'intenses discussions. Il y avait eu beaucoup de recours. Il avait notamment fait un recours devant la CEDH qui n'avait pas été retenu. Finalement, Gérald Darmanin, avec cette décision cassée, avait été devant le Conseil d'État. Il avait gagné sur la forme. L'imam était donc expulsable. Il avait même obtenu un laissez-passer consulaire de la part du Maroc. Et au moment où il avait obtenu tous ces accords, l'imam s'était enfui en Belgique, d'où il avait été expulsé vers le Maroc. Et il est aujourd'hui au Maroc. L'avocate française de l'imam Iqiyoussen, très intéressant, rappelle que l'affaire n'est pas finie devant le tribunal administratif de Paris. Je la cite. Elle ajoute que si l'arrêté d'expulsion français a été annulé, la France devra assurer son retour. Et c'est là que le problème se pose. On a vu il n'y a pas très longtemps le cas d'un Ouzbek, par exemple, qui avait été expulsé avec, disons, volontarisme par Gérald Darmanin. La France est condamnée à le rapatrier à ses propres frais, à lui verser une somme d'argent. On est absolument dans ce cas de figure. Ça peut être le cas d'ailleurs pour l'imam Iqiyoussen, comme si demain on expulsait l'imam Majoubi de la même manière. Ensuite, il y a la question, ça a été souligné ce matin sur CNews par Linda Kebab, du droit à mener une vie privée et familiale normale. L'imam Majoubi, contrairement à l'imam Iqiyoussen, il a des enfants mineurs. Donc ce principe, absolument, donc ce principe pourrait être brandi devant la CEDH avec peut-être une autre réponse de la CEDH, parce que dans le cas de l'imam Iqiyoussen, on avait dit, bon, ils sont majeurs, c'est plus un sujet. Là, en l'occurrence, la situation sera peut-être totalement différente. On attend, au cas où toutes ces étapes sont franchies, on attend le laissez-passer consulaire de la Tunisie. Rien ne dit qu'on l'obtiendra. Dans le cas du Maroc, il avait été négocié. Dans le cas de la Tunisie, je ne peux pas vous dire comment ça va se passer. Et puis, depuis la loi immigration, il y a cette question de la condamnation à un délit puni de 3 ans de prison. Je ne vous redis pas tous les motifs que j'ai cités tout à l'heure, mais croyez-moi, sur chacun de ces motifs, l'imam Majoubi et son avocat pourront aller contester. C'est ce qu'ils ont commencé à faire. En réalité, leur stratégie de défense aujourd'hui, elle est moins médiatique que judiciaire. Ils préparent leurs éléments de langage pour le tribunal pour aller dire non, il y a zéro menace grave pour l'ordre public, il y a zéro atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, il y a zéro provocation explicite ou délibérée à la discrimination. Ils vont se défendre comme ça et on n'est pas du tout certain qu'un tribunal le condamnera à 3 ans de prison, ce qui du coup lèverait toutes ses options pour pouvoir l'expulser. En fait, si je vous résume, c'est une énième affaire avec un parcours du combattant juridique pour se débarrasser d'un imam qui, je le rappelle, est étranger.
Et on est toujours là pour décortiquer, parce que si on regarde ce qui est dit dans les médias, ce n'est pas du tout la réalité. Donc à chaque fois, on est là pour décortiquer comme vous l'avez fait. Merci infiniment pour votre regard. Dans un instant, je vous fais écouter un petit sonore de Christophe Deloire, secrétaire général de RSF, puisqu'il y a eu une conférence de presse cet après-midi. Alors, quelques petits mots ont été dits. Cette décision du Conseil d'État, vous savez, c'est le feuilleton qui contre CNews et la liberté d'expression. Alors, cette décision du Conseil d'État est une opportunité pour l'ARCOM de démontrer son efficacité, dit par exemple le secrétaire général de RSF. Ou bien il dit, c'est une bataille cruciale pour le journalisme. Il y aura cette année, la campagne des élections européennes, le renouvellement des 15 conventions des chaînes de la TNT, c'est le moment d'appliquer la loi, rien que la loi, toute la loi. Je vous ferai écouter un extrait dans un instant. Et puis on fait un petit tour de table rapide. Ouh là là, on n'a pas beaucoup de temps. Marc, Annie.
Oui.
En fait, Marc, je voulais absolument. D'ailleurs, vous m'avez tous déçu aujourd'hui parce que vous n'avez pas parlé de cette femme de 80 ans, j'aime bien vos têtes, qui a été violée par cette OQTF de 35 ans.
Vous avez raison d'en parler, ça, il n'y a aucun doute.
Non, mais je vous taquine un peu, mais c'est-à-dire qu'il y en a tellement. C'est devenu tellement régulier. On ne sait plus quoi dire. On ne sait plus quoi dire sur cette violence régulière. Donc, on a une pensée pour cette femme. On a une pensée pour tous les actes de violence. On a une pensée pour cette femme tuée devant le tribunal de Montpellier aujourd'hui, cet après-midi. On va s'arrêter avec vous, Marc, sur cette jeune fille, cette jeune lycéenne à Orléans. Aujourd'hui, qui, ce midi, a frappé sa professeure avec son téléphone portable. Pourquoi ? Parce que la professeure voulait juste lui confisquer son téléphone portable.
Que oui, comprendre ? Alors les faits, rien que les faits, soyons dignes de RSF. On est au lycée Potier à Orléans, dans une filière qui est STMG. Moi, je ne connaissais pas cette filière. C'est science, technologie.
En 1802, elle n'existait pas.
Ouais. Je vous remercie.
C'est grave.
Technologie du management et de la gestion. En gros, si vous voulez devenir comptable, c'est dans cette section qu'il faut vous inscrire. Et c'est un peu moins difficile que le bac classique. Là, on est en première. Et la professeure commence à donner son cours et elle s'aperçoit qu'il y a une élève qui apparemment se laisse distraire par son portable. Elle intervient, elle lui confisque et reprend l'enseignement en espérant que les uns et les autres seront attentifs. Le cours se termine, la jeune fille vient se présenter et réclame son portable. Là, la prof se dit peut-être qu'elle ferait la même chose dans le prochain cours. C'est à la fin de la journée qu'on lui rendra son équipement mobile, et par conséquent, elle refuse de répondre à l'attente de la lycéenne. Et à ce moment-là, eh bien, la lycéenne se montrant un peu agressive dans ses gestes, elle prend panique, l'enseignante, et hop, elle lui met un revers de claque. À ce moment-là, l'élève saisit le portable, elle frappe violemment le professeur, qui se retrouve avec le sang qui coule, elle est tuméfiée sur le front. Ce qui est extraordinaire.
Voilà pour les faits.
Ce qui est extraordinaire, alors la professeure porte plainte, bien évidemment, elle espère qu'on fera attention à elle, et en l'occurrence que l'élève sera exclu. Ce qui posera d'autres questions, que fait-on d'une élève exclue qui est capable de ce type d'acte ? Est-ce qu'il y a un moment, une sorte de cellule où on lui apprendra ce qu'est la civilité ? Oublions cela, revenons aux faits. Ce qui est intéressant, c'est que sur les réseaux sociaux, le principe d'aversion s'impose immédiatement. C'est-à-dire que ce n'est plus l'élève qui a frappé son professeur. Non, c'est le professeur qui, en ayant ce revers de panique, eh bien, a commencé et c'est elle qui devient l'agresseur. Là, on est dans cette logique qui fait qu'à chaque seconde, quoi que vous fassiez, vous pouvez devenir le coupable. Il n'y a pas de logique. D'autant plus que si vous représentez l'autorité. Alors, toutes les questions que l'on peut se poser à partir de ce cas, c'est déjà qu'est-ce que l'autorité ? Qu'est-ce que le respect ? Autorité, respect, qu'une professeure ne puisse pas manifester son mécontentement parce qu'on n'écoute pas son cours, qu'on utilise un objet technologique qui, de toute façon, également est préjudiciable aux autres qui sont dans sa classe. Parce que même si vous avez simplement le petit bip-bip-bip, vous ne pouvez pas être concentré, écouter la prof. C'est un manque de respect pour les autres et vis-à-vis du professeur. Pas de respect. Et puis, pas d'autorité. Il n'est pas question de plier devant un professeur. Vous pouvez arriver à la fin et dire « Écoutez, maintenant, ça m'appartient, je fais ce que je veux. » C'est extraordinaire, vous vous rendez compte ce qui se passe dans l'éducation nationale. Moi, j'étais un bougre qui, malheureusement, pour mes professeurs, avait une tendance à la rébellion. Mais c'était toujours justifié. C'était pas sur, comme ça, une sorte de petite atteinte à mon ego.
Ce ne sont pas les dossiers que j'ai, hein, à votre sujet. Hein.
Non, mais vous vous rendez compte où nous nous trouvons. Donc, le professeur ne représente plus rien. Il est là, il est une sorte de figurant, d'autant que les parents si on retient l'intervention du professeur comme crédible, les parents se présentent à la feuille, disent, vous avez vu ce que vous avez fait à mes enfants, eh bien, ils ne peuvent pas être traités comme ça, et en général, eh bien, l'administration donne raison aux parents. Autre question, c'est le fait que les filles se comportent de plus en plus comme des garçons. Avant, elles avaient une tendance à la docilité, alors on peut se dire que sur un principe, elles sont moins soumises, et c'est peut-être une évolution. Mais lorsqu'il s'agit d'affronter une autorité, on ne peut que se désespérer. C'est pas dans la logique de « je ne subis pas le patriarcat », non, c'est simplement « je ne veux plus être dans l'obéissance, je suis un électron libre ». Et puis, électron libre, pourquoi ? Ben voilà, et électron libre, pourquoi ? Pas pour leur portable. Et là, on en vient à ce qu'avait dit le Premier ministre il y a quelques semaines en prenant ses fonctions. C'est un fléau terrifiant. Il y a une enquête qui a été menée il y a 2 ans sur les 15-25 ans par un média qui s'appelle le média JAM. Sur 500 jeunes, 38% se disent addicts et 37% estiment qu'ils ont une relation négative par rapport à leur portable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour eux, c'est comme une drogue. C'est-à-dire que l'élève, en l'occurrence, ce n'était plus une simple punition, elle était en manque. Et comme le manque, eh bien, vous bondissez, vous jaillissez. Voilà où nous en sommes. Et là, il y a obligatoirement une responsabilité des parents quand on sait que dès l'âge de 3 ans et demi, vous avez une grande partie des petits qui se retrouvent avec un smartphone et ils utilisent ce smartphone à 3 ans et demi. Le smartphone pendant 1h30 par jour. Comment voulez-vous qu'arrivé à ces âges-là, 17 ans, il ne soit pas dans cette situation de la dépendance ? C'est critique, mais ça nous oblige à réfléchir sur ces 3 points, l'autorité, le respect, et puis cette addiction à toute cette technologie qui fait que nous ne sommes plus des citoyens normaux.
Donc la mémoire est un champ de bataille, l'État est faible, et où est passé le respect et l'autorité ? Et je rappelle encore une fois qu'une pensée à cette femme de 80 ans violée par un homme sous OQTF, on ne sait pas quoi dire, mais on pense à cette dégradation en tout cas de la situation en France. Une octogénaire, elle vivait à la peine sur Uvonne, dans les Bouches-du-Rhône, près d'Aubagne. Elle a été violée par un cambrioleur à son domicile dans la journée du samedi 17 février. Et le suspect est un homme se déclarant de nationalité guinéenne et faisait l'objet d'une OQTF. Il a été placé en garde à vue aujourd'hui. Charlotte Dornelas, c'est demain que Missak Manouchian va donc entrer au Panthéon et les résistants étrangers auront fait leur place, je disais en titre officiel, dans notre récit national. Il est vrai qu'on se demande pourquoi ça intervient aussi tardivement finalement.
Mais en fait, on va voir que si Mathieu nous expliquait que la mémoire est un champ de bataille, ça n'est pas nouveau, notamment sur le cas de Missak Manouchian. Alors, parce que évidemment, dans cette histoire, il y a l'histoire des hommes, il y a l'époque, il y a le jeu du Parti communiste français, il y a le jeu des mémoires à l'intérieur du Parti communiste français. Marc nous rappelait hier qu'il y avait une différence entre des communistes, des militants communistes et le Parti communiste français. Il y a même des différences de courant au sein du Parti communiste français sur le récit à avoir, notamment sur la résistance.
Alors, pendant que vous parlez, on regarde toujours l'hommage qui a commencé ce soir au Mont-Valérien.
Et il y avait un passionnant papier de Guillaume Perrault, donc du Figaro, en juin dernier, quand on avait appris qu'il y aurait cette panthéonisation, qui retrace justement toute cette histoire et qui est vraiment passionnant. Alors, avant l'histoire de l'arrestation, il y a toute l'histoire justement de ces francs-tireurs et partisans qui sont séparés en deux. Il y a les francs-tireurs et partisans au sein du Parti communiste qui sont français et les autres qui sont étrangers, même parfois répartis par nationalité, notamment pour des raisons évidentes de communication et d'organisation au sein de la résistance, mais ils sont eux-mêmes séparés, on va dire, dans l'organisation de la résistance. Il y a une longue histoire de la filature de la police qui aboutit à l'arrestation de résistants français et de résistants étrangers qui ont 2 procès distincts. Vous avez donc en 1944 29 Français et 23 étrangers qui sont condamnés à mort et fusillés. Et il y a une seule femme dans ce groupe de résistance. Elle est envoyée en Allemagne et décapitée en Allemagne. Vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui sont arrêtées dans cette affaire. Et finalement, la notoriété, la première raison de la notoriété du groupe Manouchian et de Manouchian en particulier, c'est une sorte d'inversion du stigmate finalement, puisque c'est la propagande nazie et collaborationniste en France qui fait cette fameuse affiche sur laquelle ils mettent ce qu'ils appellent les terroristes étrangers, puisqu'ils insistent sur les noms à consonance étrangère qui sont terroristes. En France. Donc la propagande est énorme sur le dos de ce groupe étranger de résistants. Et c'est la fameuse affiche rouge qui fera que, contrairement à d'autres, Manouchian et ses copains, comme on disait à l'époque au Parti communiste, ne seront pas oubliés. Alors à l'époque, le Parti communiste français, lui, ne souhaite absolument pas mettre l'identité particulière des résistants en avant. Donc par identité particulière, entendez par exemple arménien, entendez par exemple juif, parce que beaucoup d'entre eux étaient juifs. Il y avait même une section juive à l'époque dans cette résistance. Et on a une différence de discours après leur mort entre finalement la mémoire orthodoxe du Parti communiste qui ne veut pas entendre parler des différences particulières et la mémoire résistante au sein du Parti communiste qui, elle, veut célébrer les différentes particularités. On a Charles Tillon, qui est l'ancien chef des FTP, justement, qui est écrit un livre qui s'appelle « Lettres des fusillés » en 1946, dans lequel il cite 10 de ses combattants étrangers. Et il leur consacre même un ouvrage spécifique. Et là, Moscou, directement, puisque tout se gère à Moscou pour une partie d'entre eux, riposte immédiatement en publiant « Lettres des communistes fusillés ». Parce que ça les intéresse moins d'avoir des gens fusillés que des communistes fusillés. Ils préparent évidemment le discours de la mainmise communiste, on va dire, sur la résistance. Et les 10 étrangers en question qui sont dans la lettre initiale ont disparu du récit. Ils ont disparu au profit simplement d'une résistance communiste. C'est la seule chose qui intéresse. À l'époque, Aragon préface ce livre avec la disparition des étrangers. Vous allez voir pourquoi je le précise. Entre-temps, les anciens cadres étrangers des FTP sont invités à retourner dans leur pays d'origine par Moscou pour, je cite, construire le socialisme dans leur pays d'origine. Et ils sont rapidement accusés eux-mêmes de séparatisme, voire pour ceux d'entre eux qui sont juifs, victimes de campagnes antisémites de la part de l'URSS. Et certains d'entre eux finissent purgés par Staline lui-même. Ils ne peuvent plus venir porter la cause justement de ces étrangers au sein des FTP jusqu'en France. Staline meurt en 1953. À l'époque, l'humanité pleure Staline. Je referme la parenthèse. Et 2 ans plus tard, une rue du groupe Manouchian est inaugurée à Paris. Et là, à ce moment-là, Aragon, voilà pourquoi je parlais de lui quelques temps plus tôt, Aragon, pris de remords ou simplement comprenant que l'histoire est un peu en train de changer, écrit un texte qui est mis en musique quelques années plus tard par Léo Ferré et qui deviendra un tube pour toute l'extrême gauche, notamment communiste, après les années 68. Mais vous voyez que tout le monde a eu des rôles plus ou moins évidents, on va dire, dans cette affaire. Et il faut attendre la fin des années 70 pour que des historiens, notamment des anciens des FTP, réussissent à faire une histoire scientifique, comme dit Guillaume Perrault, du communisme français, sans prendre le récit du PCF pour argent comptant dans ce qui s'est passé, notamment vis-à-vis des propres résistants qui se revendiquaient eux-mêmes communistes.
Très intéressant. Mais comment expliquer, Charlotte Dornelas, que nous attendions encore des décennies de plus jusqu'à Emmanuel Macron ?
Alors, parce qu'après toute cette histoire, arrive le sujet du documentaire, le drame du documentaire. En gros, alors là, on a Moscou-Lévy-Boucaud. Il se passionne, cet homme, pour les francs-tireurs et partisans étrangers en particulier. Il se plonge dans leur histoire et il rêve initialement de faire un film, puis qu'il transforme en documentaire pour leur rendre hommage. Il travaille donc sur la vie de ces juifs étrangers résistants en France et il fait parler des survivants dans ce documentaire. Seulement, certains d'entre eux posent des questions sur le rôle du Parti communiste français et posent des questions sur, et racontent une histoire qui est parfois un peu différente que celle qui est établie par cette fameuse mémoire communiste orthodoxe et non pas résistante, puisque cette guerre continue à faire rage. Et certains expliquent qu'ils ont commencé la résistance sans aucun appui logistique du Parti communiste. Et il pose la question, pour certains d'entre eux, de la finalité de la stratégie du Parti communiste français. En clair, est-ce que la stratégie, c'était réellement de résister et de soutenir, quoi qu'il arrive, les résistants communistes ? Ou alors, est-ce que c'était d'alimenter le récit de la domination communiste sur la résistance ? Cette question est posée par des résistants communistes vis-à-vis du Parti communiste français. Donc vous voyez que la guerre, elle se fait au sein. Et cet homme, par ailleurs, qui fait le documentaire, est obsédé par la dernière phrase de Manouchian dont nous parlait Marc tout à l'heure, et notamment cette partie-là, « Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal et qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. » Il est obsédé par cette phrase, surtout avec les témoignages d'autres résistants, et il se dit « Mais est-ce qu'il savait qu'un tel ou tel l'avait vendu ou pas ?» Et donc, il creuse cette question-là. Vous imaginez que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. À l'automne 83, on est quand même quelques années après, l'automne 83, le documentaire qui est primé est proposé à Antenne 2 à l'époque. Antenne 2 veut publier ce documentaire et la direction finit par reculer parce qu'au sein d'Antenne 2, il y en a deux. Il y a deux entités, on va dire, qui sont extrêmement puissantes à l'époque. C'est le Parti communiste français et la CGT qui, elle, ne voit pas du tout d'un bon œil ce documentaire dans lequel des questions, des hypothèses sont avancées qui ne vont pas dans le sens. En 1984, Le Matin de Paris, qui est un journal proche du Parti socialiste, hein, on n'est pas... Le Matin de Paris attaque et somme le Parti communiste français de s'expliquer sur ce que devrait révéler ce documentaire qui n'a toujours pas été publié. Tous les non-communistes, évidemment, embrayent, notamment dans les médias. Ils embrayent, ainsi que les communistes qui ont depuis rompu avec le Parti communiste français, notamment sur ces affaires-là. S'entame alors un combat entre la mémoire communiste et la mémoire juive de ces résistants qui étaient par ailleurs juifs, mais qui étaient eux-mêmes communistes. Et la guerre entre le Parti communiste français et le Parti socialiste à l'époque se fait notamment sur l'affaire Manouchian, mais également sur fond de rapport à l'immigration. Parce que le Parti socialiste français attaque à l'époque le Parti communiste sur, vous savez, cette fameuse affaire du bulldozer de Vitry-sur-Seine, où vous avez un élu communiste qui dit, en gros, les étrangers, ça suffit parce que on ne peut plus accueillir des étrangers, en l'occurrence c'est des Maliens. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Somme Marchais, de se désolidariser de cet élu. Marchais soutient cet élu-là, la LICRA porte plainte contre Marchais, et à l'époque, c'est la création aussi d'SOS Racisme, du côté socialiste, qui donc attaque le PCF en disant « Mais vous voulez non seulement... » Enfin, ils se servent, on va dire, de cette histoire sur les étrangers en disant « On comprend mieux pourquoi vous ne voulez pas rendre hommage aux étrangers qui ont résisté au sein du Parti communiste. » Vous voyez que la guerre de politique actuelle n'est pas très nouvelle dans l'histoire de la mémoire, notamment sur le dos de ce pauvre Missak Manouchian.
Quel récit! Mais comment, Charlotte, le PCF a fini par récupérer cette affaire, puisque cela semble particulièrement mal embarqué, finalement, à l'époque?
Alors, nous avons la victoire de François Mitterrand en 81. Alors là, la ligne de Marchais est mise en minorité à ce moment-là. Et au moment des cantonales de 82, puis des élections européennes de 84, le Front National, à l'époque, fait son premier score à 10 chiffres dans la première élection. Et il fait le même score que le Parti communiste en 84. Et alors là, l'affaire du documentaire fait rage absolue. Là, c'est la guerre même des électeurs qui va récupérer les électeurs. Le PCF quitte le gouvernement à ce moment-là. La guerre entre le PS et le PCF continue à se faire, notamment sur la question du documentaire. Et Simone Signoret, qui a prêté sa voix, donc compagnon de route s'il en est du Parti communiste, qui a prêté sa voix au documentaire, finit par faire une projection à Saint-Germain-des-Prés avec ce que toute la gauche compte de non-communistes à l'époque. Et alors là, l'Humanité dimanche riposte avec un dossier à charge sur l'anticommunisme, des gens qui veulent publier ce documentaire. Tout ça, c'est entre le PS et le PCF. Hein. Et écoutez l'article de l'Humanité à l'époque, compare les nouveaux historiens, pas ou plus communistes, à, je cite, la conscience scientifique du discours d'un homme politique d'extrême droite. Donc à l'époque, entre le PS et le PCF, sur ce documentaire, tout se joue sur, c'est finalement une caution d'extrême droite, on ne change pas une équipe qui gagne. Et eux, les gens qui défendent le documentaire, défendent simplement des interrogations légitimes concernant le Parti communiste français. Une pétition est lancée par l'Humanité, avec de véritables résistants également, hein, ça il n'y a aucun doute, sur cette guerre-là. L'ancêtre du CSA est saisi à ce moment-là, il se défausse, il met en place un jury d'honneur avec que des résistants qui refusent la diffusion et de ce documentaire. C'est finalement Mitterrand qui, quelques années après, en 85, impose la parution de ce documentaire. Et à partir de là, les historiens se penchent sur cette affaire. Mais vous voyez, 40 ans après, l'Humanité et le Parti communiste français qui viennent distribuer les bons et les mauvais points, c'est un peu énorme quand même par rapport à la complexité de toute cette affaire et de toute cette mémoire en particulier.
La mémoire est un champ de bataille.
Oui, et la mémoire est souvent confisquée. C'est-à-dire, ce que Charlotte nous rappelle très justement, c'est que c'est une querelle des gauches à certains égards. Donc le Parti socialiste joue le rôle de l'extrême droite et le Parti communiste joue le rôle de la vraie gauche, ou inversement. Mais c'est une querelle à l'intérieur de l'univers des gauches et ceux qui en parleraient de l'extérieur ne sont pas vraiment évités.
Marc, je sais que j'avais envie d'en parler, mais on va en parler certainement demain parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir. Je sais que Geoffroy, je vais vous faire réagir, peut-être Geoffroy, peut-être uniquement vous, comme vous êtes exceptionnellement là ce soir. Non, mais à juste RSF, avant votre partie sur Sleeping Giant, écoutez donc Christophe Deloire qui s'est exprimé, donc le secrétaire général de RSF, qui s'est exprimé pour revenir, je cite, sur la décision du Conseil d'État. Écoutez.
Notre travail, c'est de promouvoir la liberté, l'indépendance et le pluralisme du journalisme partout dans le monde. Le pluralisme à la télévision, on le défend même en Ukraine. Alors ce serait quand même assez surprenant qu'on ne le défende pas en France. On ne juge personne pour ses opinions politiques et au contraire, on défend la possibilité pour chacun de pouvoir exprimer son opinion. On est voltairien et disons-le, si n'importe quelle opinion, et y compris bien sûr celles qui sont sur CNews, ne pouvaient pas trouver leur place à la télévision, on serait là. On serait là, y compris pour défendre CNews. Et on les défendra toujours. Voilà, c'est nous les voltairiens.
Réaction Geoffroy Lejeune.
Non mais il est extraordinaire, il est exceptionnel.
C'est vous qui voyez. Je suis en train de négocier avec Mathieu Bocoté si on parle de ce sujet-là ou bien si on parle de Sleeping
Giants. On parle de Sleeping Giants demain.
D'accord, très bien. Non, parce que je vois que tout le monde veut réagir et il ne reste que 4 minutes. Donc merci, on parle de Sleeping Giants demain et réagissons par rapport à ce qu'on vient d'entendre.
Ben non, mais en fait, ce qu'il vient de dire, on peut le résumer, c'est la guerre, c'est la paix. Enfin, je veux dire, c'est Orwell avait inventé ça bien avant lui. Et nous sommes là pour défendre toutes les opinions, y compris si les gens qui pensent comme CNews ne pouvaient pas s'exprimer, on serait là. Mais il était où avant CNews, du coup? Il était déjà en train de se battre pour que des opinions contraires aux siennes s'expriment dans le débat public. Il est extraordinaire. Moi, je le connaissais avant. Je le connais, on s'est déjà parlé.
Oui, je sais que vous le connaissez.
Mais je découvre sous sa meilleure facette un personnage paroxystique. Il est extraordinaire.
Et d'ailleurs, grâce à vous, je l'avais invité aux États généraux du journalisme que j'avais organisé. Il n'est pas venu.
En fait,
vous qui l'aviez contacté, d'ailleurs.
Il avait accepté. Et puis finalement, il n'a pas voulu venir.
C'est bien. Hein. Les coulisses en direct. Hein. Voilà. vous faites la conclusion. Réaction maintenant et vous faites la conclusion après du sujet.
C'est Orwell à la puissance 1000, mais c'est exceptionnel. Et je me demande s'il sait qu'il est orwellien ou est-ce qu'il est à ce point pénétré par son idéologie qu'il est capable de dire le contraire de ce qu'il fait sans même s'en rendre compte. C'est fascinant. Un cas comme ça, c'est un cas digne d'étude.
De l'orwellisme.
Et en même temps, on dirait que toute la société est comme ça. Hein. Vous voyez ce que je veux dire sur le côté...
C'est la logique de l'inversion. Mais moi, je m'interroge. Est-ce qu'il ne va pas demain porter plainte contre le Conseil d'État en disant, écoutez, messieurs, non, c'est intolérable la manière dont vous comportez, vous interpellez l'ARCOM, mais CNews est un exemple de liberté d'expression, ce en quoi il a complètement raison. Mais alors pourquoi il a interpellé le Conseil d'État qu'il ose maintenant lui demander de réviser son propre jugement et qu'on applique le traité de paix tel qu'il vient de l'élaborer?
Non mais il nous dit oui en Ukraine, etc. Typiquement l'exemple que prenait Mathieu, on les a pas entendus parler de la Belgique. C'est-à-dire qu'il y a objectivement des courants qui sont décrétés d'extrême droite et Mathieu nous a suffisamment expliqué que dans le rapport du RSF il y avait absolument aucune définition que par ailleurs n'existe pas scientifiquement. Et je rappelle quand même qu'ils ont fait faire ce rapport à un homme, François Jost, qui nous expliquait en 2015 qu'il comprenait que des journalistes n'utilisent pas le mot terroriste parce que les Nations Unies n'avaient jamais réussi à donner une définition précise du terrorisme. Alors, j'aimerais bien que ce monsieur nous apporte la définition précise des Nations Unies de l'extrême droite, qui distribue à la moitié du PAF désormais. Deuxième chose, il nous explique qu'il y a des opinions, si elles ne pouvaient pas s'exprimer ailleurs, évidemment, on se battrait. Alors, je note une chose, il y a la question du pluralisme interne. Le pluralisme interne des médias a été critiqué pendant des années, avant même l'existence de CNews, en disant qu'il y a des propos, il y a des courants de pensée, des courants même de pensée politique qui ne sont pas représentés dans les médias, et on mettait ça sur le terrain éthique, parce que c'était pas les bonnes valeurs, et bon, là, on retombe sur nos débats en permanence. Maintenant que sur le pluralisme global, CNews apporte indiscutablement, d'ailleurs, ils en sont la preuve vivante tous les jours, indiscutablement une ligne éditoriale qui participe du pluralisme, puisque tout le monde s'excite dessus toute la journée. C'est bien qu'elle est différente, donc qu'elle est pluraliste, dans l'offre globale. Et alors là, ils nous disent, ah oui, mais alors finalement, c'est plus l'offre globale qui nous intéresse, c'est l'offre interne. Mais vous avez fini de vous moquer de nous ou pas?
Et rappelons, comme j'ai dit dans la chronique du journal du dimanche, qu'il était de CSA avait demandé aux chaînes info d'être différentes, d'aller sur les idées et le débat. Ouais. Le dernier mot de cette
tout
émission.
Tout une farce là-dedans.
C'est-à-dire?
Il y a le rapport qui fonde sur le rapport Jost, qui est un des rapports qui est d'une faiblesse intellectuelle, à mon avis. Je ne parle pas de l'homme, je parle du rapport, mais navrante. Navrante, où les termes ne sont pas diffusés, où le François Jost, lorsqu'il explique comment il a dit si quelqu'un était d'extrême droite ou non dans son rapport, pour faire son chiffre, il y a X% d'extrême droite sur CNews, il dit ben, si le monde dit que tel journal est d'extrême droite, alors c'est l'extrême droite. Mais comment on peut dire ça sérieusement sans s'effondrer sous le sens du ridicule, premier élément. Deuxièmement, il y a Rapporteurs sans frontières qui ne défend pas la liberté d'expression en France. J'ai dit ça, oui, non, ni en France, ni en Belgique, ni ça. Et là, aujourd'hui, ils se présentent comme les grands défenseurs. RSF se porte à la... Alors que dans les faits, ils œuvrent à la restriction de la liberté d'expression. Et finalement, il y a le Conseil d'État qui a accepté ce rapport comme un élément de preuve pour justifier une restriction de la liberté d'expression. Mais c'est une blague de A à Z.
Mais il faut respecter la loi, toute la loi, rien que la loi. Merci à tous. La démocratie contre elle-même de Marcel Gauchet. À lire ce soir, par exemple. Ça vous fera un peu de... Un peu de vacances. Allez, à demain. Merci encore, Geoffrey, d'avoir été avec nous.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.